Hey, oh, à vous les Burgiens, votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes plus de 40 millions à l'écouter chaque jour en France. Le saviez-vous? La radio a sa journée mondiale, c'est le 13 février. Pour fêter ça, un magazine spécial, vous entendrez des voix de Bourg-en-Bresse. Quelle place à la radio dans votre quotidien? Sophie vous a tendu son micro. Focus sur les radios associatives et portrait d'un des bénévoles de Radio B. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Est-ce que vous écoutez la radio?
Oui, beaucoup.
Qu'est-ce que vous écoutez à la radio?
Alors, beaucoup les reportages sur Bourg-en-Bresse, par exemple, et puis beaucoup de musique.
J'écoute France Musique.
Qu'est-ce que vous écoutez à la radio?
La musique surtout, et c'est ça, la musique, généralement.
Musique classique.
De la musique souvent sur RTL2 ou France Info.
Oui, j'écoute la radio. Mon père écoute la radio et je l'écoute à travers lui. On va dire que je subis son écoute, mais c'est souvent un plaisir, donc ça va.
Quand j'allume la radio, j'aime bien écouter plusieurs choses. J'aime bien. Parfois, je cherche à écouter les informations, notamment le matin, donc à être informé un petit peu de ce qui se passe autour de moi. Et puis parfois j'aime bien allumer comme ça au hasard et me laisser porter, qu'on me raconte des histoires parfois ou profiter des musiques qu'on me propose sur la radio que j'ai choisie.
J'écoute souvent la radio moi quand je suis dans ma voiture, je fais des trajets, j'allume tout le temps la radio, c'est un peu un réflexe.
En quoi la radio est essentielle dans votre quotidien ?
J'aime beaucoup vivre seul et la radio m'apporte le courant extérieur de la vie.
Pour l'information de ce qui se passe en France et dans la région.
Un peu pour les infos et surtout pour la musique.
En quoi la radio est essentielle dans votre quotidien?
Parce que je ne regarde pas la télé.
Pour faire passer les trajets en voiture qui des fois sont un peu longs. Déstresser dans les bouchons aussi, c'est important. Et découvrir de la nouvelle musique, moi j'aime bien. J'aime bien découvrir des nouveaux artistes.
Elle m'informe, mais c'est une présence. Mais j'écoute ce qui est dit, hein. C'est pas qu'un bruit.
Pour moi, elle est essentielle pour me raccorder au monde autour de moi, en fait, pour pouvoir me tenir informée, parce que j'ai pas de télé chez moi. Et aussi, aussi pouvoir profiter un petit peu d'un certain moment d'évasion, un petit peu, avec ce que j'écoute.
Merci à Sophie en stage à la radio pour ce micro-trottoir. C'est votre réveil ou votre compagnon pour le petit-déj, la douche. Elle rythme votre préparation. Quand vous entendez la météo de 8h15, ça y est, vous êtes en retard. Sûrement la brancherez-vous dans votre voiture pour un trajet en musique ou pour avoir les dernières infos. La radio en quelques chiffres, elle est écoutée chaque jour par près de 8 Français sur 10. 2. Comme les principales motivations d'écoute, en tête la musique suivie des informations. 18 millions, c'est le nombre d'auditeurs à 8 heures et c'est là où ils sont les plus nombreux, des chiffres de Médiamétrie.
Radio B.
La journée mondiale de la radio, c'est le 13 février. Alors cette date n'a pas été choisie par hasard. Le 13 février 1946, c'est le jour où a été créée la radio des Nations Unies. La journée mondiale de la radio est proclamée par la Conférence générale de l'UNESCO en 2011. Quelques années plus tard, ça sera au tour de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors pourquoi une telle distinction? Voici quelques objectifs avancés par l'UNESCO. Sensibiliser le grand public et les médias à la valeur de la radio, ou encore encourager les décideurs à développer l'accès à l'information par le biais de la radio.
Radio B, Radio B.
Sensibiliser les habitants de Bourg-d'Elin à la valeur de la radio, c'est aussi l'une des missions de Radio B. Connaissez-vous bien votre radio associative? Sophie, en stage, avait plein de questions à poser à Élodie Gadiolet.
Bonjour Élodie Gadiolet.
Bonjour.
C'est quoi Radio B en quelques mots?
En quelques mots, Radio B, c'est une radio associative, non commerciale et locale qui est située à Bourg-en-Bresse.
Donc, il y a des bénévoles.
Oui.
Pouvez-vous me dire combien il y a de bénévoles?
Pour la saison 2017-2018, il y a une cinquantaine, voire une bonne soixantaine de bénévoles qui animent une vingtaine d'émissions et une dizaine de chroniques.
Élodie Gadiolet, vous l'avez dit, Radio B est une radio associative. Quelles sont les différences avec une radio commerciale ?
Alors déjà, une radio associative, comme son nom l'indique, c'est une association. Donc elle est composée de bénévoles. Les bénévoles, c'est des personnes qui viennent la plupart faire une émission à titre gratuit. C'est une passion pour beaucoup d'entre eux. La particularité de la Radio B, c'est qu'elle fonctionne comme une association, c'est-à-dire qu'elle est gérée par des bénévoles. Après, il y a 3 salariés qui ont été recrutés par le conseil d'administration. Donc le conseil d'administration, ce sont des bénévoles élus. Mais voilà, la base de la radio, c'est vraiment le bénévolat. Ensuite, il y a l'aspect non commercial. Donc, les radios commerciales, ben, tout le monde les connaît. C'est Énergie, Radio Scoop à Bourg-en-Bresse. Et donc, elles fonctionnent essentiellement grâce à la pub. Nous, sur Radio B, comme on est une radio associative, on a une mission de communication de proximité. Et pour ça, on remplit des critères qui nous permettent de bénéficier de subventions, donc d'argent qui vient de l'État. Du coup, ces subventions nous permettent à peu près de vivre, et donc on n'a pas besoin de faire de la publicité à côté. Même si on a le droit de faire de la publicité, on ne doit juste pas dépasser 20% de nos recettes en publicité.
Donc, c'est l'État qui finance les radios associatives. Pouvez-vous me dire, c'est quoi le FSER ?
Alors, c'est l'État en partie qui finance les radios associatives parce qu'il y a d'autres structures. Il peut y avoir la ville, donc la ville de Bourg-en-Bresse. Il peut y avoir la région, le conseil départemental. Enfin, voilà, ça dépend aussi des années. L'État nous finance par le biais du ministère de la Culture et de la Communication avec ce fameux FSER. Donc, ça veut dire Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc, c'est une enveloppe avec de l'argent dedans et qui est consacrée à toutes les radios associatives du territoire. L'idée, c'est que ces radios, pour pouvoir toucher de l'argent, elles doivent justifier de leur activité radiophonique sur toute l'année passée. Donc là, en ce moment, je suis en train de constituer le dossier de toute l'année 2017. Donc en gros, il faut que j'explique au ministère de la Culture et de la Communication que pendant l'année 2017, Radio B a fonctionné, a fait plein d'émissions et je dois réexpliquer toutes les émissions qu'on a faites depuis janvier 2017 jusqu'à décembre 2017, toute une année de radio.
Vous êtes arrivé à la radio en mars 2014. Mais Radio B existe depuis plus longtemps. Pouvez-vous me dire quand Radio B a été créée ? Comment ?
Radio B, avant, s'appelait Tropic FM. Donc, elle fait partie de ce qu'on appelle les radios pirates. Les radios pirates, ce sont des radios qui ont essaimé un petit peu partout sur le territoire à la fin des années 70, début des années 80, puisqu'auparavant, il n'y avait pas autant de radios qu'aujourd'hui. Ce sont des groupes d'individus qui se sont réunis pour faire de la radio ensemble. Donc, ils bidouillaient les antennes, ils se mettaient dans des apparts, chez eux ou dans des locaux. Et c'est ce qui s'est passé à Bourg-en-Bresse. Donc, un groupe d'individus s'est rassemblé pour créer une radio, Tropic FM, fin des années 70, début des années 80. Et donc, ils émettaient à Bourg-en-Bresse sur un petit rayon et ils faisaient leur radio de leur côté. En 1981, François Mitterrand a été élu président de la République et il a décidé de libéraliser les ondes, c'est-à-dire qu'il a autorisé toutes ces petites radios qui avaient essaimé un petit peu partout sur le territoire, il les a autorisées. Donc Radio B, donc à l'époque Tropic FM, a été autorisée en 1982.
Est-ce que toutes les radios associatives ont été des radios pirates ?
Non. Toutes les radios associatives d'aujourd'hui n'ont pas été des radios pirates, puisqu'il y a des radios associatives qui se sont créées après. Alors aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de place sur la bande FM. La bande FM, tu sais, c'est 90.0, donc ça, c'est notre fréquence. Sur cette bande, il n'y a plus vraiment de place. Donc il n'y a plus trop de possibilités de créer une radio associative sur la bande FM aujourd'hui. Mais après, il y a des radios associatives qui se créent aujourd'hui sur Internet, ce qu'on appelle les web radios.
Connaissez-vous d'autres radios dites pirates au début, comme Radio B ?
Oui, j'en connais d'autres. Radio Canu à Lyon, Radio Pluriel. En fait, nous, Radio B, on fait partie du syndicat des radios de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans ce syndicat, je pense qu'il y a une centaine de radios. Donc, et ça ne concerne pas toutes les radios de la région. Donc oui, j'en connais plein. Il y a Radio Sainte-Afrique qui est dans le Larzac, où on va de temps en temps faire des formations.
Élodie Gadiolet, Combien y a-t-il de radios associatives à Bourg-en-Bresse ?
À Bourg, il y a 3 radios associatives, donc Radio B, Radio RCF Pays de l'Ain et Radio Salam.
Et en France ?
En France, je crois qu'il y a environ 600 radios associatives.
La journée mondiale de la radio, c'est le mardi 13 février. Que souhaitez-vous aux radios associatives dans les années à venir ?
Qu'elles continuent d'exister. Aujourd'hui, pour ceux, celles qui s'intéressent à la radio, on parle de la radio numérique terrestre, la RNT. L'innovation numérique, technologique, ça peut faire un peu peur, surtout que souvent il y a un coût quand on innove. Donc j'espère que cette avancée de la RNT qui devrait arriver en France bientôt, qui est déjà dans certains pays, ne va pas transformer les radios associatives et ne va pas faire en sorte qu'elles disparaissent. Après, il y a aussi une autre difficulté pour les radios associatives. On dépend des subventions, donc de l'argent de l'État. Et en ce moment, c'est un petit peu plus difficile d'avoir de l'argent de l'État, ce qui est dommage, parce que moi, je pense que les radios associatives, elles ont tout intérêt d'exister encore plus aujourd'hui, parce qu'on a besoin aussi d'être proche des gens, d'aller à leur rencontre. Et puis, il y a aussi ce qu'on fait à côté, les ateliers, où là, on va rencontrer des jeunes collégiens comme toi ou des lycéens. Et là, pour le coup, je pense que c'est aussi important pour vous de pouvoir tester la radio, d'apprendre ce que c'est que le métier de journaliste, de faire une émission. Enfin, c'est intéressant aussi. Donc, je souhaite que les radios associatives, elles puissent vivre encore très longtemps.
Élodie Gadiolet, directrice de Radio B au micro de Sophie. Une soixantaine de bénévoles sont en ce moment à Radio B, certains depuis des années. Michel Celso, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coprésident de Radio B, l'un de ses bénévoles depuis 17 ans. Vous l'avez connue quand elle était encore Tropic FM. Les auditeurs du 90 FM vous retrouvent tous les jeudis dans Au Terminus des Prétentieux, une émission sur l'actualité musicale près de chez nous. C'est en direct à 17h15, mais vous n'êtes pas seul. Avec vous, il y a Antonio Rodriguez, dit Tonio. Pour commencer, Michel Celso, j'aimerais vous faire réagir à un chiffre, 824. À quoi correspond-il ?
Au nombre d'émissions du Terminus des Prétentieux depuis le 1er septembre 2000.
Cette semaine, c'est donc la 824e émission pour Au Terminus des Prétentieux. Oui. C'était donc le 1er septembre 2000. Pourquoi avez-vous poussé la porte de Tropic FM aujourd'hui, Radio B ?
Je revenais de Paris pour des raisons professionnelles. Donc on s'est installé à Bourg-en-Bresse. Et ça faisait plus de 10 ans que je voulais en refaire de la radio. J'en rêvais la nuit, je me souviens. Et un matin, j'étais en congé formation. Et un matin, j'ai cherché des radios sur Bourg-en-Bresse. Puis je suis tombé sur une radio locale. Je me rappelle, c'était même Pierre Bachelet. Pas forcément ce que j'aime en priorité. Et puis le son de la radio, le ton de la radio m'a dit ça c'est une radio locale. Parce que, comme j'ai connu il y a 18 ans et je veux... je vais demander à faire à nouveau de la radio. Voilà, c'était reparti. Voilà. J'ai écouté la radio, donc je me suis renseigné, j'ai appelé, je suis venu voir les locaux, j'ai posé ma candidature pour une émission et puis c'est parti comme ça. C'est reparti comme ça. Voilà. C'était une vieille, très longue histoire.
Michel Celso, tout simplement, pourquoi la radio ?
Pour sortir de chez soi. Pour rencontrer d'autres personnes, parce qu'on ne fait pas de la radio tout seul, et pour proposer quelque chose de différent.
Pour vous, votre histoire avec la radio, comment vous avez découvert ce média ? Est-ce que c'était quelque chose qu'on s'intéresse à la radio ?
Il faut dire qu'à l'époque, les radios locales n'existaient pas, avant 1981, enfin plus 82 que 81, surtout à Oyonnax. Donc on écoutait les radios dites périphériques, qui n'existaient pas forcément en plus sur la bande FM, c'était les grandes ondes. Il y avait les 4 grandes radios, hein, France Inter, je pense par rapport à la fréquence, il y avait France Inter, Europe 1, RMC et RTL. Donc on écoutait forcément ces 4 radios. Je pense que c'est l'achat d'un poste de radio à cassette, où j'ai beaucoup écouté la radio et je l'ai beaucoup enregistré sur cassette. Et puis un jour, j'ai un copain d'école, un copain de classe, qui habitait pas loin de l'IME Les Sapins, qui dépend de l'ADPI de l'Ain. Et certains animateurs de cette ADPI lançaient une radio. Et donc lui, les connaissant un petit peu, il m'a proposé donc de venir visiter les studios, de parler dans le micro, et puis d'animer une émission. Et c'est parti comme ça. Je me rappelle, j'avais fait une petite dédicace à ma prof d'allemand. C'est n'importe quoi, hein, mais c'était l'occasion de parler dans le poste. Et puis après, bah, on se prend un petit peu au goût. Et puis effectivement, à l'époque, c'était vraiment tout nouveau. Enfin, faire de la radio, c'était le premier radio libre. Donc c'était partir à l'aventure, quoi, vers un monde que personne ne connaissait, quoi.
Et c'était quoi justement la radio dans les années 80?
L'aventure, les premières années, il y a beaucoup de monde qui tournait autour, il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés, c'était la mode. Hein. En 84, on était plus de 120 animateurs, c'était vraiment la mode. Bon, une mode qui n'a pas duré longtemps, parce que je crois 2-3 ans après, on était plus que 40, donc c'était quelque chose de nouveau, hein. Une nouvelle voix, les gens pouvaient écouter autre chose que les radios périphériques, et en plus, il n'y avait pas de pub. Donc c'était une radio sans pub, où on pouvait entendre des gens qu'on connaissait, et puis on passait ce qu'on voulait, quoi, voilà. Il y avait une totale liberté de parole et de ton, et donc c'est là qu'on a pu découvrir plein de musiques que je ne connaissais pas, quoi.
La différence entre la radio que vous avez connue à vos débuts, dans les années 80, et la radio aujourd'hui?
Qu'est-ce qui a changé? Je pense que l'esprit restait le même, mais après, ça fait plus de 35 ans, hein. Donc au bout de 35 ans, d'abord, c'est des radios qui vieillissent, qui prennent de l'âge, donc pas mal d'expérience en plus. Au niveau technique, c'est beaucoup moins aventurier qu'à l'époque, hein. Je me rappelle, à l'époque, l'émetteur n'émettait pas 24 heures sur 24, on arrivait, on allumait l'émetteur, et à la fin de l'émission, enfin à la fin de la soirée, on arrêtait l'émetteur. L'émetteur était juste dans la salle de bain qui servait d'appartement où on émettait, voilà, par exemple. Et c'est important parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'informatique, donc pour diffuser, quand il n'y avait pas d'émission directe, au début, il n'y avait rien, puis après, on mettait des cassettes ou des bandes, donc c'était pas pratique, quoi. L'informatique, je pense, a révolutionné la radio, mais pas uniquement au niveau des appareils d'enregistrement. Mais c'était un autre monde, quoi. Mais c'était un monde fait d'aventures, de bricolage, de... Fallait se débrouiller. Je pense qu'on était beaucoup plus bricoleurs, beaucoup plus débrouillards que maintenant.
Michel Selsoy, est-ce que vous avez quelques anecdotes à nous raconter de moments de radio, moments un peu cocasses, les plus marquants?
Je me rappelle en 2002, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a des voir un Cibis qui était passé dans le coin, et il y a eu des interférences avec les ondes, et en même temps qu'on parlait, je veux dire, on présentait un morceau des Guns N' Roses, et il y a le Cibis qui parlait en même temps. C'est des appareils qui étaient dans les voitures et qui permettent de se parler d'une personne à une autre. Ça existait beaucoup dans les camions. Ce jour-là, c'est interféré sur notre onde à ce moment-là. Et la personne pensait que je parlais sur son canal. Alors en fait, je pense que les ondes avaient débordé sur son canal et son canal avait débordé sur le nôtre. Et on se parlait sans se comprendre. Et c'était très particulier, quoi. Un moment fou rire.
Les Guns N' Roses. Les Guns N' Roses.
Attention, comment t'es là-dessus?
J'ai choisi.
Attention, comment t'es là-dessus?
Voilà, merci le portable. Si j'ai choisi donc Jour de tonnerre ce soir, Death of Thunder en anglais, donc ce n'est pas pour le film, bien sûr, hein, l'histoire n'ayant qu'un intérêt limité, mais bien pour la bande...
Attention, changez de canal, s'il vous plaît, j'essaie d'appeler, là.
Et bien pour la bande originale, excusez-nous, on est... C'est toi, Patrick, hein?
C'est Jacques 01 qui essaye d'appeler, s'il vous plaît.
Ah ben Jacques 01, si vous pouvez raccrocher, ça vous arrangerait bien.
Et puis des moments de solitude aussi, effectivement, quand la technique marche pas. Voilà, quand t'as un problème de micro, et on met un petit moment à trouver pourquoi ça marche pas. Au moment qu'il a fallu, tellement les micros marchaient pas, il a fallu que je vienne dans le studio invité pour parler, sinon il m'aurait pas entendu du studio technique, des trucs comme ça.
Michel Selsoy, aujourd'hui vous êtes à la fois animateur et coprésident de l'association. Une nouvelle casquette depuis quelques années. Pourquoi ce choix de s'investir de cette manière dans la radio?
Je pense que c'était la suite logique. L'ancien président voulait arrêter au bout de plus de 13 ou 14 ans de présidence. Il fallait que quelqu'un prenne la suite. Donc,
étant... Il faut avoir l'envie aussi.
Oui, mais j'étais investi quand même depuis 2001, j'avais été trésorier, et même si j'étais plus trésorier, après j'étais quand même vice-président, donc je suivais un petit peu l'actualité de la radio quand même. Puis voilà, la radio c'est mon truc, donc je me voyais pas m'arrêter ni dans le bureau, ni dans la radio. Il fallait bien que la radio continue. Après, comment, si Marie Rouxel et puis Christine Darivière n'étaient pas venues, comment ça se serait passé? C'est sûr que ça serait passé différemment. Et est-ce que la radio, est-ce que même la radio existerait encore aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Car c'est vraiment un travail d'équipe qu'on réalise depuis 2013. Et sans l'équipe qu'il y a eu au début et l'équipe qu'il y a aujourd'hui, la radio n'existerait plus, je pense.
Vous avez dit que c'est difficile d'arrêter.
La radio, c'est une drogue. Oui. Mais je comprends pas comment on peut arrêter une passion. Donc, quand on a une passion, on l'arrête jamais. Quand on a le virus de la radio, on ne peut pas l'arrêter. C'est impossible.
Alors, comment vous imaginez votre futur à Radio B?
À 82, 83 ans, je ne pourrais plus avancer, je serais malade, je tirerais ma révérence et puis j'aurais un bouquet, non pas sur l'accordéon, mais sur le hard rock. Et voilà. Non, je ne me vois pas arrêter la radio.
Michel Celso, coprésident de Radio B, l'un de ses bénévoles depuis 17 ans. Retrouvez-le sur le 90FM ce jeudi à 17h15 pour la 824e édition d'Au Terminus des Prétentieux.
Radio B, Radio B.
La première fois que j'ai entendu ma voix à la radio...
Ça fait vraiment bizarre. On se dit, est-ce que c'est vraiment moi, etc.
C'est comme 99,99% des gens, c'est-à-dire que j'aimais pas ma voix.
Impressionné et un peu fier de moi quand même.
Bon, après, on s'habitue, mais c'est plus quand les gens écoutent ma voix à la radio, ils ne la reconnaissent pas. Ils me disent, mais c'est toi qui es passé là, on t'entend tous les matins, mais c'est pas toi.
Bon, là, c'était juste pour une publicité.
Et je leur dis... Bah si, c'est moi. Après, voilà, la voix, c'est pas la voix de tous les jours quand je parle à tout le monde, bien sûr.
Mais c'est incroyable. À chaque fois que la publicité arrivait, je montais le son et je disais, chut, écoute, c'est moi. Et voilà, c'était magique.
Restez à l'écoute. Les voix de Bourg-en-Bresse, une immersion dans le monde de la radio, c'est dans quelques minutes. I heard you on my wireless back in 52. Lying awake, intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. We'll be right back. The Presidents of the United States of America sur Radio B avec leur reprise de Video Killed the Radio Star, une chanson du groupe anglais The Buggles. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Vous les écoutez tous les jours. Qui sont les voix de Bourg-en-Bresse? Nous vous proposons de passer un moment avec une consoeur et des confrères d'autres radios locales. Xavier est journaliste à Radio RCF Pays de l'Ain, Mika est animateur à Énergie Bourg depuis 19 ans et Delphine est journaliste à Radio Scoop depuis 2009.
Alors moi, la radio, c'est...
La radio, c'est un mélange d'un média que j'aime bien, parce que j'écoutais la radio depuis que je suis, on va dire, adolescent, comme ça, et puis tout au long de ma vie.
J'écoute le matin dans la voiture, donc moi, pour la radio, déjà, c'est me divertir, parce que j'aime bien un petit peu, quand je suis dans la voiture, penser à autre chose, et donc écouter les infos le matin avant d'arriver aussi, c'est pas mal.
Et puis, c'est un outil de travail, évidemment.
Et puis, le côté magique, on ne voit pas.
On peut nous entendre à la voiture, dans la salle de bain.
C'est un peu flou pour l'auditeur.
À la cuisine, etc. Enfin, toute la journée. Donc.
On peut vraiment plus lâcher, être nous-mêmes aussi, parce que c'est aussi le but.
Même si maintenant, il y a aussi les caméras dans les studios et qui fait que ça va peut-être peu à peu changer. Mais enfin, jusqu'à un passé assez récent, il y avait que la voix. Donc forcément, ça joue aussi.
Puis après, c'est une proximité avec les auditeurs que moi, personnellement, j'adore. C'est ce que je mets vraiment en avant dans mon métier.
Alors, ça peut être surprenant, mais au collège, quand j'ai eu ce goût de la radio, alors ça a été au collège et après au lycée, j'écoutais France Info le soir.
Donc c'était tous les soirs en sortant du collège, j'allumais la radio dans ma chambre et j'écoutais toute la soirée.
À 9h en m'endormant, j'écoutais les infos, donc il y avait les infos, après il y avait le journal des sports, je crois que ça devait être à 9h06.
Parfois les devoirs passaient un peu à côté, mais j'écoutais toute la soirée, j'enregistrais, j'ai fait beaucoup de cassettes à l'époque, où après j'essayais de refaire ce que j'entendais en fait. C'est comme ça que j'ai appris... à parler à la radio, vraiment tout seul chez moi, avec un petit poste et des cassettes.
Comment je suis tombé dedans ?
Je suis tombé dans la radio en allant visiter une station de radio dans les années 80, qui est la mienne aujourd'hui.
Ma première expérience radio, c'était déjà avec RCF, à l'époque, enfin Fourvière.
Depuis toujours, je suis fan de la JL Bourg et à l'époque, Tropic FM et Eric Jacquet. Donc Eric Jacquet commentait le basket sur Tropic FM, donc j'avais envoyé un petit mail à la radio.
J'étais impressionné par le décor, les micros, l'animateur qui semblait hyper à l'aise.
Il y avait un réalisateur bénévole, Étienne Fauvet, qui présidait la radio à l'époque d'ailleurs. Il faisait une série d'émissions au fil de la saison de rencontres d'habitants de l'Ain sur leur territoire pour savoir leur métier, etc. Il pouvait faire un garde-barrière de SNCF, un boulanger, etc.
J'avais eu une gentille réponse. Oui, pas de souci. Vous pouvez venir avec moi pendant un match, etc. Être à côté de moi. Donc j'avais été à l'époque à côté d'Éric Jacquet alors qu'il commentait un match de basket. Et depuis toujours, maintenant, on a gardé un lien. Et puis, j'allais le voir quand j'étais en seconde, en première, quand il continuait à commenter les matchs.
Et un jour, il m'avait proposé, je crois, de participer. Je ne sais plus comment c'était venu. Donc, c'est comme ça que je suis tombé dedans en faisant une première interview sur les responsables du cinéma itinérant rural à l'époque.
Et ça a été le coup de foudre, quoi.
Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup marqué également.
Et je me suis dit, c'est ce que je vais faire plus tard.
Premier passage à l'antenne, c'était RCF Pays de l'Ain. Donc, j'avais toqué à leur porte.
Ma première radio, ça a été une radio associative. J'ai démarré là-bas en arrivant avec mes CD, en faisant mon émission.
À cette époque-là, en fait, ils créaient une émission avec plein de chroniqueurs, des chroniqueurs cuisine, des chroniqueurs BD, etc. Et ils m'avaient proposé justement si je voulais faire une chronique. Alors j'avais dit, bien évidemment, je veux faire une chronique sport. Donc voilà, c'était le samedi matin.
Alors au début, c'était un peu chaotique. Et puis après, on progresse, on apprend, on fait des erreurs et on apprend au fur et à mesure. C'était pour moi la meilleure école. À partir de là, j'étais vraiment pris dedans. Quoi.
Et en plus, c'était en direct, donc il y avait le petit stress. J'ai même pu présenter les informations, puisque Xavier Jacquet, qui est journaliste à RCF, avait une semaine justement de repos. Et il m'a dit, Delphine, cette semaine, c'est toi qui vas présenter les Flash Info.
J'étais en Charente sur cette radio. Ensuite, j'ai fait mon service militaire. Donc du coup, j'ai arrêté la radio pour un petit temps. Et j'ai repris directement sur cette radio après le service militaire. Je suis resté quelques mois. Et ensuite, j'ai été repéré par une des radios du groupe Énergie. Je suis parti de la Charente, je suis allé dans le Var, et puis ensuite dans l'Ain, après le Var, je suis arrivé à Bourg-en-Bresse.
La première fois que j'ai entendu ma voix à la radio...
Ça fait vraiment bizarre, on se dit est-ce que c'est vraiment moi, etc.
C'est comme 99,99% des gens, c'est-à-dire que j'aimais pas ma voix.
Impressionné et un peu fier de moi quand même.
Bon après on s'habitue, mais c'est plus quand les gens écoutent ma voix à la radio, ils ne la reconnaissent pas, ils me disent mais c'est toi qui es passé là, on t'entend tous les matins, mais... Mais c'est pas toi.
Bon là c'était juste pour une publicité.
Et je leur dis, Bah si, c'est moi. Après, voilà, la voix, c'est pas la voix de tous les jours quand je parle à tout le monde, bien sûr.
Mais c'est incroyable. À chaque fois que la publicité arrivait, je montais le son et je disais, chut, écoute, c'est moi. Et voilà, c'était magique.
Raconter mes plus beaux moments de radio.
Qu'est-ce que j'ai comme anecdote?
Je peux raconter une petite anecdote?
Quelqu'un que je voulais interviewer qui ne voulait pas. Non, je sais pas, c'est pas mon truc, j'y arrive pas, etc.
J'étais à RCF. J'étais allé faire un reportage sur le parapente.
J'ai fait quelque chose que je fais très rarement. On a préparé, je lui ai dit, vous voyez comme quoi vous avez des choses intéressantes à dire, vous savez les dire, etc. Et on a fait l'émission.
C'était avec un journaliste. J'ai beaucoup d'histoires avec les journalistes, c'est assez rigolo.
J'étais avec ma Clio, donc déjà j'avais pris le chemin jusqu'en haut du Mont Mion. Et du coup, pour faire mon reportage, c'était pas du tout prévu. Mais le moniteur m'a dit, écoutez, si vous voulez, je vous emmène en parapente. Donc j'ai pris mon magnéto, mon micro. Et justement, j'ai sauté en parapente avec le moniteur.
Lors d'un flash info, donc, on avait tendance parfois, en se regardant, à avoir presque le fou rire. Donc là, on n'avait pas intérêt. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des feuilles devant nous. Et lui, il me disait tout le temps, ferme tes volets. Donc les feuilles, c'était mes volets. Je fermais mes volets. Et un jour, même avec les feuilles devant, il a un fou rire.
On était dans les airs, donc je lui posais des questions. Oui, qu'est-ce qui se passe là, etc. Et puis après l'atterrissage, c'était vraiment un grand, grand moment de radio, bien sûr.
Je le regardais, j'ai ouvert mes volets, je le regardais, et du coup, il rigolait encore plus. C'était vraiment magique, quoi.
À la fin de l'émission, elle m'a dit, ah, mais c'est vrai, bah, je suis capable de le faire. Donc ça, je me souviens de ça parce que, quelque part, c'est ça aussi. On interview des gens qui n'ont pas l'habitude de passer à la radio. Bien souvent, c'est leur première fois. Et ils n'aiment pas la radio parce qu'ils ne sont pas habitués. Donc quand il y a quelqu'un qui dit après, ah, bah, finalement, ouais, je suis capable de faire ça, je suis content d'avoir fait ça. Bah, c'est plaisant, quoi. On se dit qu'on a fait un peu plus que notre boulot de faire de l'information, etc.
Il y a une grosse préparation, puisqu'en fait, quand on arrive à la radio, on n'arrive pas en se disant « Allez, c'est parti, j'improvise ».
On ne s'imagine pas le travail qu'il y a derrière un reportage.
Un jour au téléphone, qui nous demande « Est-ce que vous pouvez me dire ce qui est passé tel jour, à telle heure ?» Je dis « Ben non, écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas écouté à ce moment-là, mais je vais m'enseigner. » Il dit « Mais vous travaillez à la radio ?» Je lui dis « Ben oui, mais en fait, pour la faire, la journée, moi, je travaille. »
Par exemple, moi, je fais des reportages qu'on appelle des enrobés en radio. C'est 50 secondes de rendu à l'antenne, donc avec ma voix et là où les personnes que j'interroge. Souvent, les personnes, on peut les interroger pendant une demi-heure, 45 minutes. Il faut en garder 10 ou 20 secondes. Donc, c'est un travail très long. C'est parfois même très frustrant de se dire ben, pourquoi je garde pas ce bout, pourquoi j'en garde un autre. Et puis ben, finalement, il faut faire un choix.
Souvent, l'auditeur pense ouais, attention, pour être à la radio, il faut savoir parler un bon vocabulaire et puis ça roule tout seul. Quoi. Non, en fait, il y a vraiment une préparation. Il ne faut pas se répéter non plus. L'auditeur, s'il entend toute la semaine la même chose avec les mêmes phrases, il va vite se lasser. Mais c'est ça aussi qui est passionnant. Parce que moi, ça évolue. On change des choses et nous, on ne s'ennuie pas.
En quoi c'est spécifique de faire de la radio locale?
Notre ligne éditoriale, par exemple, la Radio Scoop, c'est de toucher la mère de famille qui a à peu près 35 ans et qui a deux enfants, qui a bien sûr un mari. Donc, il faut traiter l'information qui l'intéresse.
Parce que je souhaitais faire ce côté radio locale, de parler aussi du coin où je suis né.
Ce qui est spécial, en fait, au niveau local, c'est la proximité avec l'auditeur. Et moi, c'est ce que j'aime, en fait.
Un jour, d'interviewer un ancien professeur voilà, que j'ai eu au collège, parce qu'elle est présidente d'une association, et qui me dit d'ailleurs, mais Jacquet, je vous aurais jamais vu journaliste.
J'ai déjà animé en national, et je me suis senti très loin de l'auditeur, en fait. C'était bizarre. J'étais plus dans ma ville, et je savais que je parlais pour quelqu'un de Nice, ou de Marseille, ou de Lille, et j'arrivais pas à les rapprocher en fait. Et c'était bizarre. Au fond de moi, ça restait loin quoi.
Plutôt dans l'info pratique, mais pas que info pratique, parce qu'il y a l'actualité aussi. Quand il y a des procès, etc., ça peut être plein de choses qui se passent autour de chez nous.
D'habiter la même ville que l'auditeur à qui on parle, on connaît l'endroit. C'est ça que j'aime vraiment. Je suis vraiment, en fait, on va dire, un animateur de terrain.
Moi, ce que je souhaite à la radio dans les années à venir, c'est
d'évoluer dans le bon sens.
Que ça puisse continuer, notamment pour les petites radios.
De rester ce qu'elle est à la base, ce côté un peu magique pour l'auditeur.
Il y aura notamment la radio numérique qui va demander des investissements importants.
La radio, elle évolue un petit peu avec les tendances et elle évolue un petit peu aussi sur l'Internet.
Aujourd'hui, on a un tournant de la radio. Ça va évoluer, on ne sait même pas comment encore. Mais ça va bouger. Il y a beaucoup de radios. En France, c'est un des pays où il y a le plus de radios au monde. Donc on est vraiment un pays de radio. Et nous, on le ressent encore plus que d'autres pays, je pense. Il y a tellement de radios qu'il va falloir vraiment évoluer pour se démarquer des autres.
Mais au niveau de l'antenne, il n'y a pas de souci, la radio sera toujours là.
On aura encore une longue, longue vie.
Parce que c'est ce qu'il y a de plus magique, c'est même encore plus magique que la télé.
Xavier, journaliste à Radio RCF Pays de l'Ain, Mika, animateur à Énergie Bourg depuis 19 ans, et Delphine, journaliste à Radio Scoop depuis 2009. Merci à Elodie, à Sophie en stage à la radio la semaine dernière. Merci à Robinson à la réalisation et à vous pour votre écoute. Retrouvez à vous les Burgiens tous les lundis à 17h15, rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h et à tout moment sur notre site radio-b.fr.